Acte 5. Scène 1. Le camp des Anglais près de Douvres. Entre avec tambours et enseignes, Edmond, Regan, des officiers, des soldats et autres. Edmond a un officier. Sachez si le duc persiste dans son dernier projet, ou si quelque nouvelle idée l'a fait changer de plan. Il est plein d'irrésolution et sans cesse en contradiction avec lui-même. Allez, et nous rapportez sa résolution décisive. Regan. Le mari de votre sœur a certainement tourné tout à fait. Edmond. Il n'y a pas à en douter, madame. Regan. Maintenant, mon doux seigneur, vous savez tout le bien que je vous veux. Dites-moi, mais franchement, mais bien en vérité. N'aimez-vous point ma sœur? Edmond. D'une affection respectueuse. Regan. Mais n'avez-vous point trouvé la route des lieux défendue à tout autre qu'à mon frère? Edmond. Cette pensée vous abuse. Regan. J'ai peur que vous n'ayez été unis bien étroitement avec elle, et autant que cela puisse être. Edmond. Non, sur mon honneur, madame. Regan. Je ne pourrais plus la souffrir. Mon cher lord, point de familiarités avec elle. Edmond. Soyez tranquille. Mais la voici avec le duc, son époux. Entre Albany, Goneril, soldat. Goneril à part. J'aimerais mieux perdre la bataille que de supporter que ma sœur nous désunie, lui et moi. Albany. Ma très chère sœur, soyez la bien rencontrée. Monsieur, je viens d'apprendre que le roi est allé rejoindre sa fille avec plusieurs personnes que la rigueur de notre gouvernement force d'appeler au secours. Je n'ai jamais encore été brave lorsque je n'ai pu l'être en conscience. Cette guerre nous regarde parce que le roi de France envahit nos États, et non parce qu'il soutient le roi et les autres personnes armées contre nous, je le crains, par de bien justes et de bien puissants motifs. Edmond. C'est parler noblement, seigneur. Regan. Et à quoi bon ce raisonnement? Goneril. Réunissons-nous contre l'ennemi. Ce n'est pas le moment de s'occuper de ces querelles domestiques et personnelles. Albany. Allons arrêter avec les plus anciens guerriers les mesures que nous devons prendre. Edmond. Je vais vous rejoindre dans l'instant à votre tente. Regan. Ma sœur, vous venez avec nous? Goneril. Non. Regan. Cela vaut mieux, je vous en prie, venez avec nous. Goneril à part. Oh oh! Je devine l'énigme. Je viens. Au moment où ils sont prêts à sortir, entre Edgar déguisé. Edgar. Si jamais votre seigneurie s'est entretenue avec un homme aussi pauvre que moi, écoutez seulement un mot. Albany. Je vous rejoins. Parle. Sortent Edmond, Regan, Goneril, les officiers, les soldats et la suite. Edgar. Avant de livrer la bataille, ouvrez cette lettre. Si vous remportez la victoire, faites appeler à son de troupe celui qui vous l'a remise. Quelque misérable que je paraisse, je puis produire un champion qui soutiendra ce qu'elle contient. Si l'événement tourne contre vous, votre affaire est faite dans ce monde, et tout complot cesse. Que la fortune vous soit amie. Albany. Attends que j'aie lu cette lettre. Edgar. On me l'a défendue. Quand il en sera temps, que le héros m'appelle, et je reparaîtrai. Albany. Soit. Adieu. Je lirai ce papier. Edgar sort, rentre Edmond. Edmond. L'ennemi est en vue, préparez vos forces. Voici un aperçu pris avec soin du nombre et des moyens de nos ennemis. Mais on vous demande de vous hâter. Albany. Nous serons prêts à temps. Il sort. Edmond. J'ai juré à ces deux sœurs que je les aimais. Elles sont en méfiance l'une avec l'autre, comme l'est de la vipère celui qu'elle a mordu. Laquelle des deux prendrai-je? Toutes les deux? L'une des deux? Ni l'une ni l'autre? Tant qu'elles seront toutes les deux en vie, je ne puis posséder ni l'une ni l'autre. Prendre la veuve, c'est rendre furieuse sa sœur Goneril. Et le mari de celle-ci vivant, j'aurai de la peine à me maintenir. Commençons toujours par nous servir de son appui dans le combat. Et après, que celle qui a tant d'envie de se débarrasser de lui trouve les moyens de l'expédier promptement. Quant à ses projets de clémence pour lier à Cordelia, la bataille finit. Et eux, entre nos mains, ils ne verront pas son pardon. Mon rôle à moi et de me tenir sur la défensive, et non de discuter. Il sort. Scène 2. Un espace entre les deux champs. Bruit de combat. Lia et Cordelia et leurs troupes entrent et sortent avec enseigne et tambour. Entre Edgar et Gloucester. Edgar. Vieux père, prenez ici l'hospitalité que vous offre l'ombrage de cet arbre. Priez le ciel que la bonne cause l'emporte. Si jamais je reviens encore vers vous, je vous apporterai des nouvelles consolantes. Il sort. Gloucester. La grâce du ciel vous accompagne, ami. bruit de combat, puis une retraite. Rentre Edgar. Edgar. Fuis, vieillard, donne-moi ta main. Fuyons, le roi Lear a perdu la bataille. Lui et sa fille sont prisonniers. Donne-moi la main, marchons. Gloucester. Non, pas plus loin, mon cher. Un homme peut pourrir même ici. Edgar. Quoi ? Encore de mauvaises pensées ? Il faut que les hommes subissent en ce monde l'ordre du départ comme celui de l'arrivée. Il ne s'agit que d'être prêt. Venez. Gloucester. Vous avez raison. Ils sortent. Scène 3. Le camp anglais près de Douvres. Entrée de mon triomphant, avec des enseignes et des tambours. Lia et Cordelia prisonniers, des officiers, des soldats, etc. Edmond a des officiers. Que quelques officiers se chargent de les emmener. Bonne garde jusqu'au moment où ceux-là à qui il appartient de disposer de leur sort auront fait connaître leur volonté. Cordelia. Nous ne sommes pas les premiers qui, avec la meilleure intention, ont eu le plus mauvais sort. Je suis abattue pour toi, roi opprimé. Il me serait autrement bien aisé de rendre à la fortune infidèle mépris pour mépris. Ne verrons-nous point ces filles, ces sœurs ?
Lia.
Non, 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 non. Viens, allons à la prison. Seuls, ensemble, nous deux, nous y chanterons comme des oiseaux en cage. Quand tu me demanderas ma bénédiction, je me mettrai à genoux et je te demanderai pardon. Nous vivrons ainsi en priant, en chantant. Nous conterons de vieilles histoires. Nous rirons des papillons dorés. Et aussi d'entendre de pauvres diables s'entretenir des nouvelles de la cour. Nous en causerons avec eux. Nous dirons celui qui gagne, celui qui perd, qui entre, qui sort. Nous expliquerons les secrets des choses, comme si nous étions les espions des dieux. Et, de dedans les murs d'une prison, nous verrons passer les ligues et les parties des grands personnages qui fluent et refluent au gré de la lune.
Edmond. Emmenez-les.
Lia. Sur de tels sacrifices, ma Cordelia, les dieux eux-mêmes viennent jeter l'encens. T'ai-je donc retrouvé ? Celui qui voudra nous séparer, il faudra qu'il apporte une des torches du ciel et nous chasse d'ici par le feu comme des renards. Essuie tes yeux. La peste les dévorera tous, chair et peau, avant qu'ils nous fassent verser une larme. Nous les verrons auparavant mourir de faim. Viens.
Lia et Cordelia sortent, accompagnés de gardes.
Edmond. Ici, capitaine, à moi. Prends ce papier. Il lui donne un papier. Suis-les à la prison. Je t'ai avancé d'un grade. Si tu obéis aux instructions contenues là-dedans, tu t'ouvres le chemin à une brillante fortune. Sache bien que les hommes sont ce que les fait la circonstance. Un cœur tendre ne va pas avec une épée. Cette grande mission ne souffre pas de discussion. Ou dis que tu le feras, ou cherche d'autres moyens de fortune.
L'officier. Je le ferai, seigneur.
Edmond. À l'œuvre, alors. Et tiens-toi pour heureux du moment que tu l'auras accompli. Mais fais-y bien attention. C'est dans l'instant même et il faut exécuter la chose comme je l'ai écrit.
L'officier. Je ne peux pas traîner une charrette ni manger l'avoine. Si c'est l'ouvrage d'un homme, je le ferai.
Il sort. Fanfare, entre Albany, Goneril, Regan, officier, suite.
Albany.
Seigneur, vous avez montré aujourd'hui votre courage et la fortune vous a bien servi. Vous tenez captifs ceux qui nous ont combattus dans cette journée. Nous vous requerrons de nous les remettre pour disposer d'eux selon qu'en ordonneront à la fois notre sûreté et la justice qui leur est due.
Edmond.
Seigneur, j'ai cru à propos d'envoyer ce vieux et misérable roi dans un endroit sûr où je le fais garder. Son âge, et plus encore son titre, ont un charme pour attirer vers lui le cœur des peuples, et pour tourner les lances que nous avons levées pour notre service contre les yeux de ceux qui les commandent. J'ai envoyé la reine avec lui pour les mêmes raisons. Ils seront prêts à comparaître demain ou plus tard au lieu où vous tiendrez votre cour de justice. En ce moment, nous sommes couverts de sueur et de sang. L'ami a perdu son ami, et les guerres les plus justes sont, dans la chaleur du moment, maudites par ceux qui en ressentent les maux. La décision du sort de Cordelia et de son père demande un lieu plus convenable.
Albany. Avec votre permission, monsieur, je vous regarde ici comme un soldat à mes ordres, et non pas comme un frère.
Regan. C'est précisément le titre dont il nous plaît de le gratifier. Il me semble qu'avant de vous avancer si loin, vous auriez pu vous informer de notre bon plaisir. Il a conduit nos troupes, il a été revêtu de mon autorité, il a représenté ma personne, ce qui lui permet bien de prétendre à l'égalité et de s'appeler votre frère.
Goneril.
Ne vous échauffez pas tant, c'est par ses talents qu'il s'est élevé, beaucoup plus que par vos faveurs.
Regan. Investi par moi de mes droits, il va de pair avec les meilleurs.
Goneril.
Ce serait tout au plus s'il devenait votre mari.
Regan.
Badinage est souvent prophétie.
Goneril.
Oh là, oh là! L'œil qui vous a fait voir cela, voyez un peu louche.
Regan.
Madame, je ne me sens pas bien. Autrement, je vous dirai tout ce que j'ai sur le cœur.
Edmond.
Général, prends mes soldats, mes prisonniers, mon patrimoine. Dispose d'eux, de moi-même. Je prends ici le monde à témoin que je te fais mon seigneur et maître.
Goneril à Regan.
Prétendez-vous le posséder ?
Alban.
Une telle décision ne dépend pas de votre bon plaisir.
Edmond.
Ni du tien, seigneur.
Alban.
Certes si, ville métisse.
Regan à Edmond.
Fais battre le tambour et prouve que mes droits sont les tiens.
Alban.
Attendez encore. Écoutez la raison. Edmond, je t'accuse ici de haute trahison. Et dans l'accusation, je comprends ce serpent doré.
Montrant Goneril.
Quant à vos prétentions, mon aimable sœur, je m'y oppose dans l'intérêt de ma femme. Elle a sous-traité avec ce seigneur, et moi, comme son mari, je mets opposition à vos bans. Si vous voulez vous marier, c'est à moi qu'il vous faut faire l'amour.
Madame lui est promise.
Goneril. C'est une comédie !
Alban.
Tu es armé, Gloucester. Que la trompette sonne. Et si personne ne paraît pour prouver contre toi tes trahisons odieuses, manifestes, accumulées, voilà mon gage.
Il jette son gant.
Avant que j'aie mangé un morceau de pain, je prouverai dans ton cœur que tu es tout ce que je viens de te proclamer.
Regan.
Oh, je me sens mal, très mal.
Goneril à part.
Si tu ne l'étais pas, je ne me fierais jamais plus au poison.
Edmond jetant son gant.
Voilà mon gant en échange. Qui que ce soit au monde qui me nomme traître, il en a menti comme un vilain. Fais appeler à son de trompe, et si quelqu'un ose s'approcher, contre lui, contre toi, contre tout venant, je maintiendrai fermement ma loyauté et mon honneur.
Alban.
Hola, un héros.
Edmond.
Un héros, hola, un héros.
Alban.
N'entends rien que de ta seule valeur, car tes soldats, levés en mon nom, ont en mon nom reçu leur congé.
Regan.
La souffrance triomphe de moi.
Alban.
Elle n'est pas bien. Conduisez-la dans ma tente.
Regan sort accompagné.
Entre un héros. Approche, héros. Que la trompette sonne. Et lis ceci à haute voix.
Un officier.
Sonnez, trompette.
Le héros lit.
S'il est dans l'armée quelque homme de rang et de qualité convenable qui veuille soutenir contre Edmond, soi-disant comte de Gloucester, qu'il est plusieurs fois traître, qu'il paraisse au troisième son de la trompette. Edmond soutient hardiment le contraire.
Edmond.
Sonnez.
Premier banc de la trompe.
Le héros.
Encore.
Deuxième banc.
Encore.
Troisième banc.
Un moment après, une autre trompette répond du dehors. Edgar entre armé, précédé d'un trompette.
Albany au héros. Demande-lui quel est son dessein et pourquoi il paraît à l'appel de la trompette.
Le héros.
Et qui êtes-vous? Votre nom, votre qualité et pourquoi répondez-vous à cette sommation?
Edgar.
Sachez que j'ai perdu mon nom, mordu d'un cancre et rongé par la dent aiguë de la trahison. Cependant, je suis noble tout autant que l'adversaire que je viens combattre.
Alban.
Quel est cet adversaire?
Edgar.
Quel est celui qui parle pour Edmond, comte de Gloucester?
Edmond.
Lui-même? Qu'as-tu à lui dire?
Edgar.
Tire ton épée, afin que si mon langage offense un noble cœur, ton bras puisse te faire justice. Voici la mienne. C'est le privilège de mon rang, de mon serment et de ma profession. Je proteste malgré ta force, ta jeunesse, ton rang, ta situation, en dépit de ton épée victorieuse, de ta nouvelle fortune toute chaude encore, de ton courage et de ton cœur, que tu n'es qu'un traître, déloyal envers tes dieux, ton frère, ton père, que tu conspires contre les jours de ce haut et puissant prince, et que tu es depuis le sommet de ta tête, dans tout ton corps et jusqu'à la poussière qui est sous tes pieds. Un traître souillé comme un crapaud. Si tu dis non, cette épée, ce bras et tout ce que j'ai de courage sont disposés à prouver dans ton cœur auquel je parle que tu en as menti.
Edmond.
En bonne prudence, je devrais te demander ton nom. Mais comme tu te montres sous les apparences d'un franc et brave chevalier, que tes discours ont quelque saveur de bonne éducation, je dédaigne et repousse ces formalités de précaution que, dans les règles, et par les lois de la chevalerie, j'aurai le droit d'exiger. Je te rejette à la tête ces trahisons. J'écrase ton cœur sous ton odieux mensonge infernal. et comme les injures ne font que passer à côté de ton corps sans le briser, mon épée va leur ouvrir la route du lieu où elles disparaîtront pour toujours. Sonnez, trompette !»
Ils se battent. Edmond tombe. Albany.
« Oh, épargnez-le, épargnez-le !»
Gonerine.
« C'est une trahison !»
Gloucester, par la loi des armes, tu n'étais pas obligé de répondre à un adversaire inconnu.
Tu n'es pas vaincu. Tu es trompé, pris dans un piège.
Albany.
Fermez la bouche, madame, ou je vais la clore avec ce papier.
Tenez, monsieur.
Il donne le papier à Edmond. Et toi, pire que tous les noms qu'on pourrait te donner, lis tes propres crimes.
Ne le déchirez pas, madame.
Je vois que vous le connaissez.
Gonerille.
Eh bien, dis, si je le reconnais, les lois sont à moi et non pas à toi. Qui me citera en justice ?
Albany.
Monstrueuse audace.
Connais-tu ce papier ?
Gonerille. Ne me demandez pas ce que je connais.
Elle sort.
Albany à un officier.
Suivez-la, elle est furieuse.
Veillez sur elle.
Edmond.
Tout ce que vous m'avez imputé, je l'ai fait. Et plus, et beaucoup plus encore. Le temps mettra tout à découvert. Tout cela est passé. Et moi aussi. Mais qui es-tu, toi, qui as eu le bonheur de l'emporter sur moi ? Si tu es noble, je te le pardonne.
Edgar. Faisons échange de miséricorde. Mon sang n'est pas moins noble que le tien, Edmond. Et s'il l'est davantage, tu n'en as que plus de tort envers moi. Mon nom est Edgar. Je suis le fils de ton père. Les dieux sont justes. Ils font de nos vices chéris la verge dont ils nous châtient. Le lieu de ténèbres et de vices où il t'a engendré lui a coûté les yeux.
Edmond. Tu as raison. C'est vrai. La roue a achevé son tour et me voici.
Albany.
Il m'avait bien semblé que ton maintien annonçait un sang royal. Il faut que je t'embrasse. Que le chagrin brise mon cœur si je n'ai jamais haï ni toi ni ton père.
Edgar.
Digne prince, je le sais bien.
Albany.
Où vous êtes-vous caché ? Comment avez-vous connu les malheurs de votre père ?
Edgar.
En le secourant, seigneur.
Écoutez un court récit.
Et quand j'aurai fini, oh, si mon cœur pouvait alors se rompre.
Pour échapper à la sanglante proscription qui menaça ma tête de si près, oh douceur de la vie, qui nous fait préférer de mourir à chaque instant des angoisses de la mort plutôt que de mourir une fois. J'ai imaginé de me déguiser sous les haillons d'un mendiant insensé et de me revêtir d'une apparence que les chiens eux-mêmes méprisaient. C'est dans ce travestissement que j'ai rencontré mon père, les anneaux de ses yeux toujours saignants. Il venait d'en perdre les précieuses pierres. Je suis devenu son guide. Je l'ai soutenu, j'ai mendié pour lui, je l'ai sauvé du désespoir. Jamais, oh, quelle faute, je ne me suis découvert à lui, jusqu'à cette dernière demi-heure, lorsque tout armé, et non pas sûr du succès, bien que plein d'espoir, je lui ai demandé sa bénédiction, et depuis le commencement jusqu'à la fin, je lui ai raconté mon pèlerinage. Mais brisé entre deux passions contraires, l'excès de la joie et celui de la douleur, son cœur, hélas, trop faible pour supporter ce combat, s'est rompu avec un sourire.
Edmond. Votre récit m'a touché, et peut-être produira-t-il quelque bien.
Parlez encore. Vous avez l'air d'avoir quelque chose de plus à dire.
Albany.
Oh, s'il y a quelque chose de plus déplorable encore, gardez-le. Je me sens déjà mourir pour en avoir tant entendu.
Edgar.
À celui qui craint l'affliction, ceci en aurait pu paraître le terme. Mais un autre trouvera encore de quoi l'augmenter et arriver à son dernier degré. Tandis que j'éclatais en cris douloureux, survient un homme qui, m'ayant vu jadis dans la plus mauvaise situation, fuyait mon odieuse société. Mais reconnaissant alors quel était celui qui avait tant souffert, il se jette à mon cou, me serre dans ses bras vigoureux, et semblant de ses hurlements vouloir percer les cieux, il se précipite sur le corps de mon père et me fait sur lui et sur Lia, le plus déplorable récit que l'oreille ait jamais entendu. À mesure qu'il racontait, sa douleur devenait plus puissante. Les fils de la vie commençaient à se rompre. La trompette a sonné pour la seconde fois. Je l'ai laissé évanoui.
Albany.
Et qui était cet homme ?
Edgar.
Kent, seigneur. Kent banni. Et qui, déguisé, avait suivi le roi, son ennemi, et lui avait rendu des services qui n'eussent pas convenu à un esclave. Entre précipitamment un gentilhomme, un poignard sanglant à la main.
Le gentilhomme.
Au secours, au secours ! Oh, du secours !
Edgar. Quel genre de secours ?
Albany.
Homme, parle !
Edgar.
Que veut dire ce poignard sanglant ?
Le gentilhomme.
Il est chaud encore. Il est fumant. Il sort du cœur.
Albany.
De qui parle ?
Le gentilhomme.
De votre épouse, seigneur. De votre épouse. Et sa sœur a été empoisonnée par elle. Elle l'a avoué.
Edmond.
J'étais engagé à l'une et à l'autre. Et dans un même instant, nous voilà mariés tous trois.
Albany.
Qu'on apporte leur corps, vivants ou morts. Ce jugement du ciel nous épouvante, mais ne nous touche d'aucune pitié.
Le gentilhomme sort, entre Kent.
Edgar. Voilà Kent qui vient, seigneur.
Albany.
Oh, est-ce lui ? Les circonstances ne permettent pas ici les formes que demanderait la politesse.
Kent.
Je suis venu souhaiter le bonsoir pour toujours à mon maître et à mon roi. N'est-il point ici ?
Albany.
Quel soin important nous avions oublié. Parle, Edmond. Où est le roi ? Où est Cordelia ?
Vois-tu ce spectacle, Kent ?
On apporte les corps de Regan et de Goneril.
Kent.
Hélas ! Et pourquoi ?
Edmond.
Eh bien, pourtant Edmond était aimé. L'une a empoisonné l'autre par amour pour moi et s'est poignardée après.
Albany.
C'est la vérité. Couvrez leur visage.
Edmond.
La respiration me manque. Je meurs. Je veux bien faire un peu de bien en dépit de ma propre nature. Envoyez promptement. Hâtez-vous. Au château. Mon ordre et crime est en ce moment en danger. La vie de Lyre et de Cordelia. Ah, envoyez Satan.
Albany.
Courez, courez. Oh, courez.
Edgar.
Avec qui, monseigneur ? Qui en est chargé ? Envoie donc ton gage de sursis.
Edmond.
Tu as raison. Prends mon épée. Remets-la au capitaine.
Albany.
À toi, sur ta vie.
Edgar sort.
Edmond. Il a été chargé par ta femme et par moi d'étrangler Cordelia dans la prison et d'accuser de sa mort son propre désespoir.
Albany.
Que les dieux la défendent. Emportez-le à quelque distance.
On emporte Edmond. Entre Lia, tenant Cordelia, morte dans ses bras. Edgar, l'officier et d'autres.
Lia. Hurlez, 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 hurlez ! Oh, vous êtes des hommes de pierre ! Si j'avais vos voix et vos yeux, je m'en servirais à fendre la voûte du firmament. Oh, elle est partie pour jamais. Je vois bien si quelqu'un est vivant ou s'il est mort. Elle est morte comme la terre. Prêtez-moi un miroir. Si son haleine en obscurcit ou en ternit la surface, alors elle vivrait encore. Est-ce donc la fin du monde ?
Edgar.
Ou l'image de l'abomination, de la désolation ?
Albany.
Que tout tombe et s'arrête !
Lia.
La plume remue. Elle vit ! Oh, si elle vit ! C'est un bonheur qui rachète tout le chagrin que j'ai jamais senti !
Kent se mettant à genoux.
Oh, mon bon maître !
Lia.
Laisse-moi, je te prie.
Edgar.
C'est le noble Kent, votre ami.
Lia.
Malédiction sur vous tous, assassins, traîtres que vous êtes. Je l'aurais pu sauver. Maintenant, elle est partie pour toujours. Cordelia, Cordelia, attends un moment.
Ah, que dis-tu ?
Sa voix était toujours douce, pure et calme. Chose excellente chez une femme. J'ai tué l'esclave qui l'étranglait.
Le gentilhomme.
Cela est vrai, Milord, il l'a fait.
Lia.
N'est-ce pas, ami ? J'ai vu le jour où, avec ma bonne épée tranchante, je les aurais tous fait danser. Je suis vieuse à présent, et toutes ces épreuves m'achèvent.
Aquette.
Qui êtes-vous ? Mes yeux ne sont pas des meilleurs. Je vais vous le dire tout à l'heure.
Kent.
Si les deux hommes que la fortune se vante d'avoir aimés et haïs, chacun de nous en voit un.
Lia.
Ma vue est bien mauvaise. N'êtes-vous pas Kent ?
Kent.
Lui-même. Kent, votre serviteur.
Où est votre serviteur Caius ?
Lia. C'est un bon garçon, je peux vous l'assurer. Il s'est frappé, et preste encore. Il est mort et pourri.
Kent.
Non, non, mon bon maître, c'est moi-même. Lia. Je vais voir cela tout à l'heure.
Kate. C'est moi qui, depuis le commencement de vos vicissitudes et de vos pertes, ai suivi vos tristes pas.
Lia. Vous êtes ici le bienvenu.
Kent. Ni moi, ni personne.
Tout est ici triste, sombre et dans le deuil.
Vos filles aînées ont prévenu leur arrêt et ont péri d'une mort désespérée.
Lia.
Oui, je le crois bien.
Alban.
Elle ne sait pas ce qu'il dit et c'est en vain que nous nous offrons à ses yeux.
Edgar.
Oh, très inutilement.
Entre un officier.
L'officier. Seigneur, Edmond est mort.
Alban.
Ah, oh, ce n'est qu'une bagatelle ici. Vous, seigneurs et nobles amis, écoutez nos intentions. Tout ce qui sera en notre pouvoir pour réparer ce grand désastre, nous le ferons. Pour nous, durant la vie du vieux roi, nous lui remettons l'absolu pouvoir.
À Edgar et à Kent.
Nous vous rétablissons dans tous vos droits, en y ajoutant de nombreux honneurs que votre noble conduite a plus que mérités. Tous nos amis recevront la récompense de leurs vertus. Et nos ennemis boiront dans la coupe amère qui leur est due.
Oh, voyez, voyez.
Lia.
Ils ont étranglé mon pauvre fou. Non, 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 une vie. Quoi, un chien, un chat, un rat ont une vie. Et toi, pas la moindre haleine. Oh, tu ne me reviendras plus jamais, 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 jamais. Défaites ce bouton, je vous en prie.
Je vous remercie, monsieur.
Voyez-vous cela?
Regardez-la.
Regardez ses lèvres. Regardez. Regardez.
Il meurt.
Edgar.
Il perd connaissance. Seigneur, seigneur.
Kent.
Brise-toi, mon cœur, je t'en prie, brise-toi.
Edgar.
Seigneur, ouvrez les yeux.
Kent.
Ne tourmentez pas son âme.
Laissez-le s'en aller.
C'est le haïr que de vouloir l'étendre plus longtemps sur le chevalet de cette rue de vie.
Edgar.
Oh, il est mort, en effet.
Kent.
Ce qui m'étonne, c'est qu'il ait pu souffrir si longtemps.
Il usurpait la vie.
Alban. Emportez ses corps. Le malheur commun est l'objet qui réclame nos soins.
À Kent et à Edgar.
Vous, amis de mon cœur, commandez tous deux dans ce royaume et rendez des forces à l'état ensanglanté.
Kent.
J'ai bientôt un voyage à faire, seigneur. Mon maître m'appelle et je ne puis lui dire non.
Alban.
Il faut subir le poids de ces temps d'affliction, dire ce que nous sentons et non tout ce qu'il y aurait à faire. Le plus vieux est celui qui a le plus souffert. Nous qui sommes jeunes, nous ne verrons jamais ni tant de mots, ni tant de jours.
Ils sortent au son d'une musique funèbre.
Littérature audio vous remercie d'avoir écouté Le Roi Lear de William Shakespeare.